Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales a publié depuis le mois de décembre 2013 100 recommandations prioritaires à exécuter. Parmi celles-ci figurent en matière d'économie, secteur productif et finances publiques, la constitution d'un fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises en impliquant les secteurs privés dans sa gestion. Nous en parlons aujourd'hui dans ce débat et nous vous invitons. Notez que la question principale de cet échange, c'est quel serait, selon vous, son impact sur la promotion des petites et moyennes entreprises en RDC. Rejoignez-nous pour participer à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 63 15 et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. La réalisation de ce programme est signée Pierrot et la Mégie. La mise en onde de ces débats du jour est assurée par Guy Manzangou. J.R. Lungembo a le réel plaisir de coordonner et présenter ses programmes supervisés par Ben Kabamba. Excellente conduite avec vous à tous et à tous.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. On le sait, le PTT moyennes entreprises qui dominent les secteurs privés en Afrique et aussi en RDC ont du mal à obtenir des financements auprès des banques pour assurer l'expansion et la diversification de leurs activités. Nous avons dans ce studio Dieudonné Kassembo Niembo, président national de la commission PTT moyennes entreprises commerce au sein de FEC. Monsieur Dieudonné, bonjour.
Bonjour J.R.
Et merci d'être de notre aujourd'hui. La première question, que peut-on comprendre de PME? Quand on parle de PME, ça veut dire quoi concrètement?
PME, par PME, nous entendons la classe d'opérateur économique qui est définie. Je préfère rentrer sur la charte pour que nous nous mettions d'accord, nous tous, par rapport au nombre de travailleurs qui part de 2 travailleurs jusqu'à 250 et ceux qui ont un chiffre d'affaires ne dépassant pas 250 000 $. Donc, vous comprendrez qu'il y a énormément d'opérateurs économiques qui évoluent dans ces tranches d'activité et mais les gens semblent ne pas comprendre qu'ils sont PME et que ce sont tout normalement qui sont les moteurs de développement pour notre pays.
Alors tout le monde parle aujourd'hui de PME comme moteur de développement. Alors comment cela s'est fait concrètement?
Par moteur de développement pour des acteurs économiques qui exercent une activité commerciale, c'est dire que nous pensons qu'ils peuvent réaliser énormément de richesses et grâce auxquelles ils seront en mesure de pouvoir payer les taxes et impôts. Parce que c'est vrai aussi que bon, l'opérateur économique qui gagne de l'argent, il doit savoir qu'il doit contribuer au développement du pays en payant correctement ses impôts et taxes. Mais c'est fort dommage que nous nous retrouvons dans un environnement où la plupart d'acteurs économiques se retrouvent dans l'informel, ce qui est dommage pour notre pays, parce qu'en fait, de plus en plus que les gens sont dans l'informel, ils bénéficient des services de l'État, mais ils ne contribuent pas au développement de ce pays.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde parle du climat des affaires. Est-ce que par rapport à l'environnement des affaires en RDC, les PME se retrouvent-elles concrètement?
Les PME se retrouvent et doivent se retrouver par rapport à l'encadrement dont ils doivent bénéficier des différentes structures.
Les différents acteurs, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Mais il se fait que, bon, la plupart de PME évoluent dans l'informel parce qu'ils se plaignent par rapport aux différentes tracasseries dont ils subissent. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'au niveau du gouvernement, entre notre fédération et les comités de suivi du climat des affaires, on a essayé d'arrêter un certain nombre d'un programme pour pouvoir améliorer les climats des affaires de manière à ce que les gens n'aient plus le prétexte de dire que non, voilà, nous nous retrouvons dans l'informel parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tracasseries et tout. C'est le cas de ces 100 résolutions que nous avons pu, qui a été proposé. Ce qui fait que normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir une politique de sensibilisation, de vulgarisation, comme c'est que nous sommes en train de commencer de faire aujourd'hui pour permettre aux opérateurs économiques de comprendre que il y a des efforts énormes qui ont été effectués au niveau de l'État et qui permettront réellement à ramener les gens vers le formel.
Alors, parce que vous avez parlé des efforts qui ont été effectués de côté de l'État, on parle notamment de la constitution d'un fonds des garanties des crédits aux PME. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça va résoudre aujourd'hui le problème? Ça va pallier les difficultés auxquelles font face certains opérateurs économiques qui sont dans le secteur de PME?
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quand même suffisamment de banques dans notre pays. Mais c'est dommage que toutes sont concentrées beaucoup plus dans la capitale. Nous voudrons quand même voir ces banques pouvoir s'étendre vers les provinces et districts de notre pays. Et parce qu'en fait, il y a de ce genre qui doivent, quand ils doivent déposer de l'argent, sinon payer certaines taxes de l'État, ils doivent faire autant de kilomètres pour pouvoir trouver là où il y a des banques. Ça, c'est un problème. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, parce que bon...
La garantie
tout opérateur économique qui souhaiterait, par le fait qu'il a un projet, souhaiterait avoir un projet, on lui impose quand même parmi les conditions que les banques fixent, il y a la garantie de crédit. C'est comme ça, je crois qu'au niveau du gouvernement, vous avez suivi qu'ils étaient en train de réfléchir comment constituer un fonds qui mettrait à disposition des PME pour garantir leur crédit. Et aussi au niveau de la Banque mondiale, par l'entremise de la SFI, il y a aussi ces programmes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté telle que les opérateurs économiques doivent être encadrés pour avoir l'information, pour les aider aussi à pouvoir préparer des dossiers bancables, parce que il n'y a pas seulement que la garantie, il y a aussi que les gens, de par l'initiative, qu'ils aient des projets bancables. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, nous avions salué, après les efforts et la pression de la FED, y compris les autorités politiques, de demander à ce que tout opérateur économique doit adhérer à une organisation patronale de son choix. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons plus de possibilités d'encadrer les opérateurs économiques. Aujourd'hui, combien d'opérateurs sont membres de la FEC? Il n'y a pas nombreux. Alors, ce qui fait que si nous nous faisons passer les messages à nos membres, mais les autres opérateurs économiques sont délaissés pour compte. Or, vous savez très bien, comme ça se passe partout ailleurs à travers le monde, c'est que la PME, c'est les moteurs de développement de tout pays. Mais ces gens, aujourd'hui, ils évoluent dans cet environnement où ils sont presque abandonnés à eux-mêmes. C'est comme ça que nous avons dit toutes les différentes résolutions qui ont été prises par le gouvernement. Il faudrait que nous profitions de votre échelle
pour sensibiliser,
vulgariser. Et puis à ce moment-là, nous allons voir de quelle manière, et en appelant aussi aux autorités politiques de pouvoir faire exécuter.
Donc si je comprends bien, M. Dieudonné, avant que nous ouvrons les standards pour recueillir aussi les points de vue des uns et des autres, est-ce que on peut dire aujourd'hui que avoir un fonds des garanties de crédit aux PME, ça pourrait avoir un impact sur la promotion des petites et moyennes entreprises?
Ça pourra avoir un impact considérable, parce que vous savez que aujourd'hui tous les projets, les gens sont en difficulté par le fait que quand ils amènent leurs projets auprès des banques, la grande difficulté qu'ils ont, c'est celle des manques de
garantie. Les banques n'ont pas confiance.
Et surtout maintenant aujourd'hui, quand les gens présentent par exemple un titre immobilier et tout, et la valeur est souvent les triples du montant que vous devez prendre. Mmh. Or, s'il y avait ces fonds des garanties qui seraient déjà mis à leur disposition, je crois qu'on évoluerait suffisamment.
Mais la difficulté, c'est aussi au niveau de la confiance que les banques vont faire à ces clients. Parce que dans bien des cas, on donne des crédits et ces derniers dévient même l'objectif premier de ces crédits.
Oui, il faut comprendre que
parce que là, maintenant, il revient à la FEC de travailler dans le sens de vulgariser, de sensibiliser les membres de la FEC et qui sont dans la commission de petites et moyennes entreprises.
Ça, c'est clair. Il faut comprendre qu'il y a la personne aussi de l'opérateur économique qui compte pour beaucoup. Parce qu'en fait, pour autant que l'opérateur économique ait d'un certain niveau donné d'instruction, et puis il a aussi une certaine morale donnée par rapport au respect des engagements qu'il prend vis-à-vis de la banque. Ça, c'est quelque chose de plus important. Et puis aussi, il y a ces programmes de renforcement des capacités. Parce qu'en fait, c'est vrai que les opérateurs économiques, malgré leur bonne volonté, mais il y a beaucoup qui n'ont pas, n'est-ce pas, ce sens entrepreneurial. Hein, déjà, par rapport au programme même scolaire au niveau de la base, qui pose problème. Ce qui veut dire que cet encadrement, nous déjà au niveau de la FEC, nous le mettons en place à travers nos différents présidents provinciaux et des districts, de manière à pouvoir accompagner suffisamment les opérateurs économiques qui ont des projets bancables. Parce qu'en fait, bon, ça c'est un autre problème. Il faudrait que nous puissions déparler les renforcements de capacités et nous mettons aussi des structures convenables pour les accompagner de manière à ce que ces projets soient acceptés par les banques.
Voilà. 081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Quel serait, selon vous, l'impact de la constitution d'un fonds de garantie des crédits aux PME sur la promotion des petites et moyennes entreprises en RDC?
Parole aux auditeurs.
Nous ouvrons le standard avec vous, Adrien. Vous êtes à Kananga. Vous êtes le premier auditeur à ouvrir les débats. Bonjour.
Bonjour, J.R. Lungembo. Bonjour à monsieur l'invité.
Voilà, Dieudonné, vous avez suivi notre invité qui a parlé de petites et moyennes entreprises qui constituent aujourd'hui un moteur de développement. Il a donné quelques éléments qui entrent en ligne des comptes pour, au fait, répondre à cette réalité. Vous avez suivi aussi la problématique telle que nous l'avons présentée en début. Quel serait, selon vous, l'impact de la constitution de ces fonds de garantie des crédits aux PME sur la promotion des petites et moyennes entreprises en RDC?
Merci beaucoup, J.R., pour la parole que vous m'accordez. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Dieudonné, donc dans beaucoup de choses, il a dit des choses vraies, mais la constitution aussi de ces fonds-là est une chose capitale au cas où le gouvernement parvenait à matérialiser ces projets-là, parce que c'est donc l'un des principes des concertateurs, donc nos voeux, et de voir que le gouvernement puisse un peu matérialiser donc ce plan-là. Vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas croire, on ne peut pas penser en un développement sans toutefois promouvoir la promotion des PME dans notre pays. Mais ce qui est vrai aussi, JR, est que le PME ou bien les opérateurs économiques qui sont dans le PME font face à beaucoup de difficultés dues ou créées par le même gouvernement. Il y a beaucoup de tracasseries sur le plan des taxes, il y a aussi certaines taxes inexistantes, mais ces gens-là font face à cela et cette situation-là ne permet pas donc le développement et l'accroissement de PME dans notre pays. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un problème qui opposait les opérateurs économiques qui sont dans le PME avec une certaine société Beltexco, pour ne pas les citer. Donc c'est pour vous dire que c'est bien beau, mais néanmoins le gouvernement devait fournir beaucoup d'efforts, assainir d'abord le millier de PME pour permettre donc contrôler ce millier-là pour que ces gens-là puissent se sentir certainement dans une sécurité et judiciaire et pourquoi pas toute autre sécurité, parce que nous avons l'impression que ces gens-là ne sont pas du tout sécurisés. Dangereusement, JR. Et monsieur l'invité, la procès, je me donne le luxe de vous dire que je suis l'un des avocats conseils de la FEC Kasaï occidentale. Mais il y a à boire et à manger dans les chefs de nos amis les opérateurs économiques qui évoluent dans le PME. Ils n'adhèrent pas du tout donc au sein des FEC. Et c'est ce qui fait que en cas de tracasserie, la FEC ne sait pas intervenir. Adria. Et c'est pour cela, moi je pense, il serait aussi de bonnes lois pour qu'on puisse donc sensibiliser les opérateurs économiques pour qu'ils sachent que pour avoir la vie sauve, pour que vous puissiez vous sentir davantage sécurité. Dans cette sécurité, pour atterrir dans la FEC, parce que c'est ça même l'instance bien indiquée pour vous défendre en cas d'insécurité, en cas de tracasserie. Donc moi je pense que il n'y a que la volonté politique du du gouvernement parce qu'on est habitué à des bons projets, à des belles promesses.
Oui.
Mais si le gouvernement, cette fois-ci, parvenait à matérialiser ça, ce
sera
vraiment donc, une bonne chose. Et ça sera aussi le développement de notre pays parce qu'on ne peut pas se développer
sans un
coup d'œil à ce qu'on sert le PME.
Merci beaucoup, Adrien. Vous reconnaissez que le fonds des garanties est une bonne chose dans la mesure où il apportera, il assurera le développement de notre pays, car ces micro-entreprises, si jamais on assainit son milieu, ça pourrait permettre à ce qu'elles soient sécurisées, et surtout du moment où ces entreprises pourraient adhérer à la fédération des entreprises, une chambre des commerce pour le sécuriser. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir appelé des Kananga. Séraphin, merci, Adrien. Séraphin, vous êtes à Ouvira. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes des Radio Capi. Séraphin, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, le temps que la ligne de Séraphin s'arrange, nous allons prendre Gaston. Maître Gaston est à Kinshasa. Maître Gaston, bonjour.
Merci, bonjour à vous aussi.
Vous avez la parole, Maître Gaston.
Oui. Disons, je voudrais que vous puissiez m'éclaircir un peu. Vous parlez d'un fonds qui est alloué, mais je veux savoir à quoi servira ce fonds-là avant que
je l'ai dit en début pour faciliter, au fait, les petites et moyennes entreprises de faire leurs activités. Vous savez, dans la plupart des cas, ce sont des entreprises qui font face à beaucoup de difficultés, pour accéder notamment au crédit auprès des banques. Alors, comme les banques exigent des garanties, maintenant, l'État congolais, en tant qu'acteur dans le secteur économique, avec l'opérateur économique, il offre, disons, un fonds de garantie pour faciliter, au fait, aux petites micro-entreprises d'accéder facilement au crédit.
Oui, oui, comme j'allais juste aussi dire que oui, il ne faut pas ignorer que nous sommes sortis d'une culture là de la cueillette. Nous
appliqués
sommes
à la modernité,
oui. Au champ.
Oui.
Et les peu de gens qui se livrent aux activités commerciales n'ont pas de notion, en quelque sorte, voire de comptabilité, n'ont pas de notion commerciale. Beaucoup ont tendance à ne pas évoluer dans ce domaine-là. Et si on risquait d'allouer, par exemple, les crédits à ces gens-là, l'argent risque d'être consommé sans être remboursé.
Raison pour laquelle nous avons préféré faire cette émission pour ne fût-ce que amener ceux qui encadrent en fait les PME à vulgariser, à sensibiliser, et notamment les résolutions du gouvernement, parce que nous l'avons dit, il y a des efforts qui sont menés du côté des acteurs qui sont impliqués, notamment les opérateurs économiques, l'État congolais et également les fédérations des chambres de commerce qui sont impliquées. Donc pour amener aujourd'hui l'informel dans les formels, afin d'aider tant soit peu le pays à se développer.
Oui, j'allais aussi préciser une chose. Quand vous dites l'informel, d'abord il faut retenir que ce sont des gens qui se livrent aux activités commerciales, mais qui ne respectent pas la procédure légale, qui ne sont pas connus auprès de l'autorité, et par conséquent, l'autorité n'a pas les voies de pouvoir, par exemple, recouvrir les taxes administratives, mais aussi contrôler. C'est dans ce sens aussi que je pouvais ajouter quelque chose. Qu'à mon avis, il serait bon d'accompagner cette population sur cette voie-là des petits commerces, des moyens entreprises. Mais il y a aussi nécessité qu'on puisse associer d'autres activités. Parce que vous savez que dans nos familles, ici, avec la charge qu'ont nos familles, si vous livrez seulement au paix des activités commerciales, et comme il s'agit aussi de petits commerces, vous aurez des difficultés pour évoluer. Il faut associer, par exemple, à ces activités-là, les activités, par exemple, des potagers, des jardins, l'agriculture familiale, l'élevage.
Voilà, il revient à la structure d'encadrement de proposer au fait des filières pour aider ces micro-entreprises. Merci beaucoup, Maître Gaston.
Oui,
Gaston, il y a beaucoup d'auditeurs qui
attendent.
Allez-y rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent.
D'accord. Il y a
sur la ligne,
service,
oui,
qui est au niveau qu'on appelle le service des agents économiques. Là aussi, il faut jeter un coup d'œil. Vous savez que ces gens-là sont là pour produire des recettes de l'État.
Oui.
Et ils se ferment léger devant les
États. Oui, Adrien a dit tout à l'heure, il faut assainir les milieux. Merci beaucoup, Gaston. Merci beaucoup.
Oui, oui.
Amissi, vous êtes à Kindu. Bonjour, Amissi.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Amissi.
Ok. Mon point de vue est clair, monsieur le journaliste. Et ce projet-là, c'est un bon projet dans un pays organisé. dans un acte de droit. Moi, je suis en train de me poser la question de savoir, dans un pays où tous les politiciens sont des opérateurs économiques, vous savez que les politiciens ont des influences sur la population. Maintenant, quand on va accorder des crédits à ces opérateurs économiques, et moi je me pose une question, est-ce que la population, entre guillemets, qui est opératrice économique, bénéficiera de cela pendant que les politiciens, presque tous les politiciens sont des commerçants, sont des opérateurs.
Non, Abissi, ça c'est une déclaration qui n'engage que vous, parce que nous on n'a pas de preuves, je ne sais pas si vous pouvez brandir les preuves.
Ok, ok, vous n'avez pas de preuves à la radio.
Oui, on ne peut pas, ce n'est pas d'ailleurs une tribune appropriée pour
citer les modes. J'ai continué à
dire, allez-y.
Monsieur le journaliste. Maintenant, le fond est là. C'est parmi les recommandations de la concertation. Jusqu'à présent, on ne sensibilise pas les opérateurs économiques parce que moi qui vous parle, bon, entre guillemets, je fais aussi...
Opérateur économique. Là, vous êtes dans les petites et les moyennes entreprises.
On n'a jamais été sensibilisé. On ne nous encadrait pas. C'est comme si on veut organiser cette histoire-là et sans que les opérateurs, les vrais opérateurs économiques soient informés de cette situation. Et c'est comme si on va accorder ces crédits aux autres membres qui ne sont pas opérateurs.
Oui, parce que ça c'est aussi un débat parce que il y a un groupe de fédérations qui parfois au fait dénonce cet aspect des choses qui taxe d'ailleurs la commission des petites et moyennes entreprises attachée à la FEC d'être au fait la petite et moyenne entreprise pour des grandes entreprises. Alors le fait qu'il y aura un fonds, est-ce que ça ne pourrait que bénéficier à tous ceux-là qui sont attachés à un niveau élevé? Bon, on verra avec notre invité Amici. Et vous appelez-moi parce qu'il s'agit une préoccupation directe, vous pouvez rester en ligne. Monsieur Dieudonné est là, il pourrait peut-être nous orienter.
C'est ça la nécessité de cette communication que nous sommes en train de faire, où nous rappelons qu'ils doivent adhérer à une organisation patronale de son choix. Je ne suis pas totalement d'accord avec notre ami qui semble être très pessimiste par rapport à cette démarche, parce que c'est ça le rôle. Une fois que les opérateurs économiques soient ensemble, ils vont rester vigilants. Ces fonds ne seront pas à la disposition des individus, ça sera à la disposition des banques retenues par rapport à cela pour pouvoir octroyer des crédits aux opérateurs économiques qui présenteront des projets bancables. Parce qu'en fait, l'essentiel doit passer par là. Parce qu'il faudrait que, de par une communication comme celle-là qui décourage certains opérateurs économiques, pendant que nous sommes appelés à pouvoir faire un effort. Parce que demain, nous restons dans cette position, nous serons les premiers à nous plaindre de voir, par exemple, les expatriés venir récupérer, n'est-ce pas, la part de marché par rapport aux activités qui étaient réservées aux petits commerces que les opérateurs congolais locaux devaient exercer. Donc, vous comprenez un peu la difficulté. C'est comme ça que nous, en tant que syndicat des employeurs, nous disons, nous devons mettre à la disposition des opérateurs économiques. Ils doivent savoir qu'ils n'ont pas seulement que des obligations, ils ont des droits. Ces droits, c'est lesquels? D'être vigilants par rapport à l'application de toutes ces différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement pour qu'elles soient appliquées effectivement et dénoncer tout dérapage éventuel. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils comprennent qu'ils sont comme des laissés pour compte. Non, nous sommes dans un état de droit. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de passer dans une chaîne comme celle-là pour pouvoir parler et faire des critiques, même directement vis-à-vis de certaines institutions, combien même que nous n'allons pas nous en prendre contre les individus, mais nous allons dénoncer certaines choses. C'est ça notre mission en tant que syndicat des employeurs.
Voilà, alors il y a une inquiétude tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de la sécurisation de petites et moyennes entreprises qui passe par l'assainissement du milieu.
Ouais, mais
il faut assainir vraiment le milieu, parce que c'est vrai, on parle des climats des affaires, mais sur le terrain, il y a d'autres auteurs qui sont revenus sur ça, les tracasseries, au niveau de la fiscalité, la tension fiscale, finalement, ça étouffe un peu.
Par tracasserie, il faut comprendre que les acteurs économiques de la PME doivent connaître d'abord quels sont leurs droits. Parce que quand vous connaissez votre droit, je vois très mal comment est-ce que un fonctionnaire viendrait vous tracassez pendant que vous connaissez, vous avez les textes des lois et tout pour vous défendre. Nous devons aussi faire attention vis-à-vis de fonctionnaires véreux. Parce qu'il n'y a pas seulement que de bons fonctionnaires. Aujourd'hui, les décisions, les mesures sont prises au niveau central. Mais il faudrait que ces informations descendent jusque vers la base pour que l'encadrement suive la vulgarisation et la sensibilisation. C'est ça l'essence de la démarche que nous avons commencée, n'est-ce pas, avec votre émission, avec votre chaîne, que j'ai remercié énormément, parce qu'en fait, nous permettrons dorénavant aux opérateurs économiques de connaître un peu, de leur rappeler quels sont leurs droits.
Voilà, alors c'est vrai que tout le monde parle aujourd'hui de notre adhésion à la zone de libre-échange. C'est aussi un débat par rapport à aujourd'hui des petites et moyennes entreprises, comment ils vont faire face à ces défis qui les attendent. Amis, si je crois, vous avez trouvé satisfaction à votre préoccupation. Voilà, les temps dépend de...
L'invité, il a été clair dans
oui.
Ses déclarations. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, j'aimerais conclure en disant que voilà, les fonds là qu'on a alloués, s'il était, mais c'est un bon projet. Est-ce qu'on a soulevé le problème du climat des affaires? Ici, nos routes ne sont pas en bon état. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord commencer à entretenir d'abord des routes? Parce qu'on peut accorder des fonds aux opérateurs économiques. Avec ces fonds-là, s'ils ne trouvent pas de moyens de transport avec ces fonds-là, je crois que ça sera une affaire là.
Voilà, un problème d'accessibilité dans...
Et ça ne doit pas évoluer.
Oui,
voilà, c'est comme ça que on ne doit pas commencer d'abord à donner des fonds tant qu'on puisse d'abord créer le climat des affaires. Et quand on parle de climat des affaires, moi je parle des infrastructures routières. Qu'on entretienne d'abord les routes. Qu'on mette d'abord les routes dans de bons états pour que les opérateurs puissent d'abord évoluer.
Pour que les banques d'ailleurs se déploient aussi à travers le pays, parce que c'est pratiquement l'une des conditions sine qua non. Lorsque les banques évoquent le problème d'infrastructure, elles ne peuvent pas être partout parce que ça a un coût énorme, surtout les déplacements, la logistique. Merci beaucoup, Amissi, d'avoir appelé les Kindou. Séraphin, vous êtes à Bujumbura. Bonjour. Séraphin, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne des Séraphins. Je crois que ça va s'arranger. Vous comprenez qu'ils nous appellent de très loin. Le temps pour nous de prendre Daniel qui est à Lubumbashi. Daniel, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Et bonjour aussi à...
Vous avez la parole, Daniel.
Ok, en suivant l'invité au studio, quand il a donné la définition sur les PME, là, ce sont des entreprises dont, qui commencent avec 2 à 250 travailleurs. Alors, je pense que cette catégorie concerne beaucoup de Congolais. Donc, parce que les gens ont des activités qui auxquelles ils emploient 2, 4, jusqu'à 10 employés. Donc, je pense qu'ils sont concernés aussi par le sujet du jour. Je pense que les conservateurs qui ont pris cette décision, ils ont pris une très bonne décision pour pouvoir allouer un fonds qui va servir de garantie aux banques. Ces idées sont bonnes, comme d'habitude dans notre pays, mais c'est l'application qui pose problème, dans le sens où les résolutions qui sont prises, leurs applications posent problème, dans le sens où l'État, s'il devrait soutenir les PME dans ce sens-là, c'est le même État au travers ses agents qui les handicapent, dans le sens où nous avons beaucoup d'États, par exemple ici au Katanga, vous pouvez avoir une activité, vous avez vos 4 travailleurs, mais vous avez des taxes, les taxes de la mairie, les taxes de la DERCAP, les taxes de la commune. Il arrive de fait que les agents qui vous ont livré des documents, en termes de taxes, vous payez, on vous remet des documents, mais lors d'un autre contrôle avec un autre service de l'État, ils viennent pour nier ce même document-là. On se retrouve que les agents de l'État se servent de PME pour les nier. C'est le PME qui commence à payer les agents de l'État au travers des taxes qui sont même illégales par des agents non qualifiés et la population se retrouve dans cet embrouille-là dans le risque de voir même l'inefficacité de certaines mesures qui sont prises comme des fonds alloués au PME. Alors ma question est de savoir, que je pose même à votre invité, quelles sont les banques qui seront retenues pour ces crédits que nous pouvons...
Voilà, utiliser. Ça c'est mettre la chérie devant le vœu. Ouais, je crois à l'avant, mais bon, de toute façon, je ne sais pas si notre invité est déjà dans les secrets de Dieu, pour savoir quelle banque sera déjà retenue. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre participation en direct.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Dieudonné Kassembo Niembo, vous êtes président national, commission PME, commerce au niveau de la FEC. Vous avez suivi les uns les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préoccupations en ce qui concerne les tracasseries. Mais on se pose la question, notre appartenance aujourd'hui, notre adhésion à la zone libre d'échange, est-ce que ça pourrait quand même avoir un impact sur les développements du secteur des petites et moyennes entreprises aujourd'hui, où il y a pas mal de craintes qu'on peut ressentir dans le chef de chacun de nous?
Je voudrais commencer d'abord par l'intervention tout à l'heure de M. Daniel de Lubumbashi qui soulevait les problèmes, qui reconnaissait que l'idée de pouvoir construire une garantie était bonne, mais c'est son application qui n'était pas bonne. Je regrette de voir, par exemple, que en suivant toutes les interventions de tout à l'heure, on dirait que les opérateurs économiques ne comprennent pas que ce sont des personnes respectables. Par le fait qu'aujourd'hui, là, ils sont tenter d'exercer une activité économique qui permettrait et qui doit permettre au gouvernement de gagner de l'argent, lequel devrait servir au paiement des salaires aux fonctionnaires, d'arranger les routes. Vous avez suivi tout à l'heure, il y avait dans l'intervention de notre ami de il parlait de routes, des infrastructures qu'il fallait arranger, tout le reste. Moi, en tant qu'opérateur économique, je suis toujours très fier quand je sors ou je rentre chez moi à la maison de me dire voilà que j'ai contribué au développement de mon pays. De quelle manière? Par le fait que je réponds d'abord aux besoins de la société. Besoins de la société, je prends un exemple. Là, le pain, c'est l'opérateur économique qui le produit. Parce que la population a besoin du pain. Je gagne de l'argent, je fais les bénéfices, je paye ce que l'État me demande de payer comme impôt. Mais dès que je me rends compte que, en comparant ce que moi je gagne par rapport à ce que m'impose par l'État, je ne gagne plus d'argent. Je me retrouve en face de l'État pour dire, écoutez, monsieur, je ne gagne plus d'argent, nous devons nous asseoir pour qu'on en discute. C'est comme ça que nous devons rester, nous, vigilants, nous, opérateurs économiques. Nous n'avons pas que des obligations, nous avons aussi des droits. Quand on se rend compte que nos droits sont bafoués, nous sommes des partenaires privilégiés du gouvernement, nous devons nous retrouver en face du gouvernement. Ça, ce n'est pas seulement qu'au niveau de Kinshasa, la capitale, mais c'est au niveau de toutes les provinces, au niveau avec des gouverneurs, avec les différentes...
Parce que les tracasseries sont encore plus visibles au niveau des provinces, au niveau des frontières.
Voilà.
Parce que, comme on le dit toujours, nos frontières sont très poreuses, et aujourd'hui, n'importe qui fait n'importe quoi au niveau des frontières, et qui brandissent même des taxes qui ne sont pas reprises dans la nomenclature.
Voilà, c'est donc ça l'essence de l'obligation. Aux des opérateurs économiques des devoirs
mais connaître on dénonce, il y a un auditeur qui a évoqué tout à l'heure ce qui est plus étonnant, en fait le contrôle est fait à deux vitesses, le fait que qu'il y ait certains opérateurs économiques qui sont puissants parce que ils représentent telle position politique et ils trouvent des facilités, mais tandis que ceux qui sont faibles ou qui n'occupent pas des positions au niveau politique, ça c'est on le prend avec sous réserve hein, parce que c'est un auditeur qui l'a dit, ceux-là, ils sont vraiment tracassés.
Je crois qu'un des objectifs de cette émission que nous nous faisons aussi, c'est de pouvoir donner confiance, que les opérateurs communs reprennent confiance par rapport aux activités qu'ils font. Ils ne sont pas les laissés pour compte. C'est dire que, et ce sont beaucoup plus, vous allez vous rendre compte, ceux qui évoluent dans l'informel qui se plaignent le plus. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Mais ceux qui sont dans l'informel, par le fait
parce qu'ils sont pas sécurisés non plus.
Ils sont encadrés, ils ont l'information, ils ont la sécurité. Parce que de temps en temps, c'est quoi? Les gens qui crient, ils sont en dehors. Et confondus parfois même avec des gens qui ne foutent rien du tout. C'est vraiment dommage. Parce que c'est nous qui créons de l'emploi. Nous résorbons le chômage. Nous payons les impôts. Je crois que nous devons être écoutés par le personne qui nous gère, qui sont les représentants du gouvernement. C'est-à-dire que c'est comme ça que nos amis doivent comprendre, est-ce que je m'engage dans une activité pour gagner de l'argent et de l'autre côté, je dois quand même payer les taxes. Mais quand on se rend compte qu'il y a un déséquilibre qui s'installe, il faudrait qu'on revienne autour d'une table pour en parler. Parce que bon, les gens doivent savoir, nous qui sommes en train de parler, nous sommes des self-made men. Nous avons commencé par les bas et nous nous battons.
Mais beaucoup d'opérateurs économiques, et surtout ceux de petites et moyennes entreprises, craignent aujourd'hui l'adhésion à la zone libre d'échange. Ils ne doivent pas craindre.
Par contre,
je crois que vous avez appris comme nous, il y a beaucoup qui craignent. Je ne sais pas si ça va. Disons, on risque de se retrouver dans un pays où de moins en moins on a des petites et moyennes entreprises, parce que adhérer à la zone de libre échange, mais nous allons apporter quoi?
Vous comprenez, pour un grand pays comme le Congo. Je crois que cette adhésion à la zone de libre-échange nous sera très bénéfique. Je veux y aller par un exemple. Vous prenez Nous n'avons qu'une seule usine de production de sucre dans les Bas-Congo. Prenez maintenant la position d'un opérateur qui se trouve à un endroit très reculé. Je prends soit les cas d'un des villages de l'Équateur ou bien par exemple au Katanga. Mais s'ils ont la possibilité de pouvoir avoir le sucre qui proviendrait, n'est-ce pas, de la Zambie, dans de très meilleures conditions, il aura un coût, s'il était industriel, il aura un coût de production beaucoup plus bas parce qu'il utilisera du sucre qui viendra de la Zambie au lieu d'attendre le sucre qui doit venir du Bas-Congo. Mais aujourd'hui, en refusant de rentrer dans cette zone de libre-échange, nous les prenons en otage. Parce qu'en fait, ils dépendront totalement du Bas-Congo ou bien alors de sucre et qui payent tout le droit et taxes et tout le reste et qui ne lui permettent pas d'être compétitifs. C'est à nous, aux autorités politiques, de réfléchir, n'est-ce pas, sur des mesures incitatives pour obtenir, par exemple, la délocalisation de certaines industries. Parce que quand vous considérez les spécificités, par exemple, de chaque province de notre pays, il y en a d'autres donc qui ont des avantages comparatifs très énormes pour certains produits et qui profiteraient à leur production et d'être encore beaucoup plus intéressants par rapport et plus compétitifs par rapport aux autres pays de la zone. À ce moment-là, nous n'aurons plus que le marché de la RDC avec 70 millions d'habitants, mais nous aurons les marchés de la zone. Et alors, avec toutes les différentes matières premières et la richesse que nous avons du sol et du sous-sol, nous pourrons, nous aussi, pouvoir vendre. Mais si nous continuons à considérer que nous ne resterons qu'à un marché par le fait de notre situation actuelle, c'est vraiment dommage.
Oui, d'ailleurs, pour rappel, il se tient aujourd'hui déjà, à partir d'hier, un atelier au niveau du Sénégal, à Dakar, dont fait partie aussi une délégation congolaise, en fait, il s'agit d'un atelier sur les produits forestiers non lignés. Nous avons les fumbois qu'on peut exporter aujourd'hui, voilà. C'est parmi les produits qu'on peut commercialiser, même ailleurs, il y a tout un débat, je crois que nous allons faire les débats dès que la délégation sera de retour. Alors, nous repassons à nouveau de l'autre côté des standards, Jean-Louis est à Dungu, Ingopa à Kananga. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez Jean-Louis, il a juste... votre point de vue, Jean-Louis.
Oui, moi je voudrais revenir sur l'encadrement et la sensibilisation. L'AFEC est mieux représenté à la base, mais je pense que peut-être cet encadrement est au niveau des grandes villes ou à mais à l'intérieur du pays ici, les membres de l'AFEC, mais on ne sent pas l'encadrement texte juridique relatif au climat de l'AFEC. On ne connaît rien là-dedans, mais on est membre. Au niveau de la base, je voudrais dire quel mécanisme l'AFEC a mis en place pour que cette sensibilisation nous atteigne jusqu'ici. Et l'AFEC aussi revoit sa fonction jusqu'à la base, qui ne se limite pas au niveau de Kinshasa. Voilà, je voudrais poser à l'invité.